La vie d'église n'est pas toujours simple, pour la simple et bonne raison que nous sommes tous des êtres humains. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là où il y a des êtres humains, il y a des problèmes et des conflits. Mais bon, peut-être que ça n'arrive pas ici, mais ailleurs, ça arrive, hein? Des conflits, des problèmes et tout. Donc, la vie d'église n'est pas toujours simple. Nous aimerions que nos relations soient plus naturelles, harmonieuses et même sans tension. Et pourtant, l'orgueil, la recherche de reconnaissance, même les différences de caractère peuvent parfois compliquer nos liens. Il est facile de se décourager ou de remarquer surtout les défauts des autres. Alors comment vivre ensemble de façon plus joyeuse, plus sereine, malgré nos limites et nos faiblesses? Il y a près de 2000 ans, à Philippe, qui était une colonie romaine prospère en Grèce, naissait l'une des premières communautés, une des premières églises en Europe. Les habitants de cette ville de Philippe, ils ont été parmi les premiers à entendre l'évangile prêché par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Et dès le début, ces croyants ont affronté de nombreux défis. Déjà, ils vivaient dans une société idolâtre et le culte de l'empereur les isolait. Toute la société rendait un culte à l'empereur alors que les chrétiens ne le faisaient pas. Et donc, ça les exposait aussi à la persécution. Certains d'entre eux dans cette église, ils étaient fiers de leur statut parce que Philippe, c'était une ancienne colonie romaine. Mais pas que ça. À Philippe, il y avait de nombreuses personnes qui appartenaient aussi à l'armée impériale. Ils étaient, beaucoup d'entre eux, ils étaient aussi des citoyens romains. Par rapport au reste de la population, et là je dis reste comme parce que c'était la vision qu'on avait, hein, le reste du peuple, nous les Romains et le reste. Du coup, cette église, elle était formée par des citoyens romains. Donc, il y avait une certaine fierté, même orgueil, une recherche de reconnaissance. En étant citoyen romain et en faisant partie de l'armée ou des ex-soldats, il y avait toujours cette recherche d'une reconnaissance. Mais je suis le général, je suis le majeur, je suis un citoyen romain respectable et tout. Donc, et tout ça rentre dans l'église. On se convertit, on ne laisse pas nos péchés derrière les portes. On rentre avec nos péchés, nos fardeaux et tout. Et c'est dans ces contextes-là que Paul, depuis sa prison, parce qu'il était en prison, il écrit à cette église de Philippe. Et malgré sa souffrance, Paul ne s'éprend pas. Au contraire, il écrit avec amour, avec encouragement, et il se souvient de leur générosité, la générosité de Philippiens et la fidélité de Philippiens à l'évangile. Ok, ils étaient orgueilleux, ils avaient ce problème de reconnaissance, mais ils avaient quand même une générosité et ils étaient fidèles aussi au message de l'évangile. Alors on peut se demander, comment Paul, derrière les barreaux, pouvait-il encore encourager les autres? Quels moyens Dieu lui donnait pour transformer sa propre souffrance en joie et en espérance pour toute la communauté de Philippe? Ce qui frappe, on va lire le texte de Philippiens 1, mais avant de lire Philippiens 1, du verset 3 au verset 6, Philippiens 1, 3 à 6. Ce qui frappe dans ce passage, c'est que Paul, malgré les barreaux et les souffrances de sa prison, il ne parle pas de sa détresse. Il aurait le droit, mais il n'en parle pas. Paul choisit au contraire de se réjouir et de remercier Dieu pour ses frères et sœurs de Philippe. Et voilà ce que nous lisons en Philippiens 1, 3 à 6. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Donc, ces paroles nous interpellent directement. Dans quel sens ? Paul nous montre en fait un chemin pour vivre la communion fraternelle d'une manière plus simple, plus fluide, plus joyeuse, même quand nos circonstances personnelles sont compliquées. Dans ce texte, nous trouvons trois attitudes qui ressortent clairement. Tout d'abord, la prière de reconnaissance à Dieu, la joie dans l'Évangile et troisièmement, la confiance dans l'œuvre du Christ. Et nous commençons, et merci, par la prière de reconnaissance à Dieu. Plutôt que de commencer par souligner les défauts des Philippiens, et ils en avaient, Paul va développer ça plus tard. C'est pour ça, c'est pas par hasard que Paul va parler tant de l'humilité du Christ. Voyons que Paul ne parle pas de l'humilité et l'humiliation du Christ à l'église des Corinthes, par exemple. Là, c'était un autre problème. Mais à Philippe, dans une église qui avait une fierté, même un orgueil, une recherche de la reconnaissance, Paul va parler de l'humilité et l'humiliation du Christ. Mais plutôt que de commencer justement par souligner les défauts et les péchés des Philippiens, qu'est-ce que Paul fait? C'est-à-dire leur orgueil, leur désir de statut. Paul adopte une autre posture. Il ouvre sa lettre en remerciant Dieu pour eux et pour l'œuvre que le Seigneur accomplit dans leur vie. Cette gratitude de Paul va se manifester concrètement dans ses prières pour les Philippiens. C'est-à-dire que même au milieu de ses propres difficultés, Paul reste engagé envers cette église. Remarquez bien, son premier réflexe n'est pas de pointer ce qui doit changer chez eux. Il faut que vous changiez ça, ça et ça. Non, mais de tourner son regard vers Dieu. Les exhortations viendront plus tard dans cette lettre, mais avant tout, Paul rappelle qu'il est lié aux Philippiens par sa relation avec Dieu. En priant pour eux, Paul révèle la profondeur de son lien avec les Philippiens, un lien qui va au-delà de la simple proximité physique, d'autant plus que Paul était en prison. Ce qui importe ici, ce n'est pas d'abord sa relation avec les Philippiens, mais sa propre relation avec Dieu. Même derrière les barreaux, la prison, Paul garde une communion vivante et personnelle avec Jésus. C'est cette relation solide avec Dieu qui lui permet de prier pour ses frères et sœurs sans se laisser freiner par ses souffrances ni par leurs faiblesses. Paul était en souffrance et les Philippiens, ils étaient orgueilleux. Il cherchait de la reconnaissance et Paul était en prison. Or, comment développer une bonne relation? Tout simplement, on commence par la base. Ma propre relation avec Dieu. Donc, la communion fraternelle commence toujours par nous-mêmes. Elle prend racine dans notre propre relation avec Dieu. Si nous avons du mal à remercier le Seigneur pour nos frères et sœurs, c'est peut-être un signe qu'il nous faut d'abord nous arrêter devant lui. Si nous ne voyons plus de raisons de manifester la gratitude, notre gratitude pour les autres, il est temps de laisser Dieu transformer notre cœur avant d'attendre un changement chez les autres. Ça commence toujours par nous-mêmes. Paul nous enseigne un principe essentiel. Avant de relever les défauts ou les manquements des autres, Paul commence par remercier Dieu pour ses frères et sœurs et par louer ce qu'il accomplit dans leur vie. Amen. Le frère un tel, la sœur une telle, ce n'est pas possible. Nous devrions commencer, Seigneur, je te loue pour ton œuvre dans la vie de mon frère. Je te loue pour ton œuvre dans la vie de ma sœur. Sa relation intime avec le Seigneur lui donnait la force de prier pour les autres, même dans les moments les plus difficiles. Et la leçon ici, elle est claire. Une vraie communion fraternelle, la joie de la communion fraternelle, commence toujours par notre propre marche personnelle avec Dieu. Si nous avons du mal à remercier le Seigneur pour nos frères et sœurs, le changement n'est pas d'abord à attendre d'eux, mais de nous-mêmes. C'est le moment de revenir devant le Seigneur et de lui demander de transformer notre regard sur nos frères et sœurs. Il y a un deuxième point dans ce texte, hein, pour mener une vie plus souple, plus légère, plus fluide des communions fraternelles, hein. Et le deuxième point, c'est la joie dans l'évangile, hein. Paul, ensuite, il va partager sa joie parce qu'il voit que les Philippiens, malgré tous ces problèmes, hein, malgré leur péché et tout le reste, hein, Paul voit que les Philippiens vivent une véritable communion dans l'évangile. Et Paul, en fait, il souligne leur fidélité. Depuis le tout début de leur foi jusqu'à aujourd'hui, dans le temps où cette lettre a été écrite, hein, ils restent engagés dans l'évangile. Hein? Paul reconnaît leur persévérance et il en est profondément reconnaissant. Mais pourquoi ce lien avec l'évangile est-il si fort entre Paul et les Philippiens? La réponse, elle est simple. Tout vient du message de l'évangile lui-même. Hein? C'est quoi l'évangile? On dit, oui, l'évangile est la solution, l'évangile du Christ, mais c'est quoi l'évangile? Le message de l'évangile, elle va provoquer en nous trois prises de conscience. Sinon, on n'a pas entendu l'évangile. On a entendu des données bibliques. Des données bibliques, c'est différent du message de l'évangile. L'évangile transforme, l'évangile change notre conscience. Les données bibliques, ce sont des données. C'est bien d'avoir des données bibliques. Hein? C'est bien de connaître toute la Bible par cœur. Mais il faut avoir au moins trois prises de conscience. L'évangile nous montre d'abord qui nous sommes. Des pécheurs perdus, incapables de nous sauver par nous-mêmes. Déjà ça. Hein? Ensuite, il nous révèle qui est Dieu. Le Seigneur souverain, le Créateur de toutes choses. Un pécheur devant le Seigneur souverain. Ok? Jusque-là, ça va. Et enfin, il nous fait découvrir ce que Dieu a accompli pour nous. Alors que nous étions perdus, le Seigneur souverain, qui aurait pu nous laisser tomber, hein, il nous a offert la vie et une relation vivante avec lui. La Bible appelle ça des craintes de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la peur de Dieu? Non. La crainte de Dieu, là, attention, je vous donnerai là un mot hyper théologique. Hein? La crainte de Dieu, dans le langage d'aujourd'hui, c'est le « wow ». C'est bien théologique, hein? « Wow ». Et pourquoi la crainte de Dieu, c'est le « wow » ? D'abord, en lisant l'évangile, on fait notre premier « wow ». Je suis pécheur, c'est pas possible. Je suis mortel et limité, wow. Ensuite, attends, il y a un Dieu infini, éternel, wow. C'est pas possible. Créateur de l'univers, wow. Ça, c'est le deuxième wow. Et le troisième wow, c'est lorsque nous rendons compte, attends, moi, un pécheur, limité, mortel. Je suis devant ce Dieu éternel, créateur et souverain. Et qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Ça, c'est la crainte de Dieu. Un mélange de cet émerveillement d'un côté et un peu de peur, mais pas cette peur qui paralyse. C'est vraiment un état d'émerveillement. Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Moi, un pécheur misérable, je suis devant toi, Seigneur, immortel, éternel, souverain. Ça, c'est la crainte de Dieu. Donc, le jour, quelqu'un vous demandera, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la peur de Dieu? Non. On peut dire, non, c'est pas, c'est le waouh. Et là, on peut développer, c'est quoi le waouh, waouh. Voilà. Donc, c'est ça le message de l'évangile. Si l'évangile ne provoque pas en nous ce waouh, c'est pas l'évangile. On est confronté à des données bibliques. Encore une fois, c'est bien de connaître la Bible par cœur. Mais il faut avoir ce « wow ». Et ce « wow », ils étaient présents chez Paul et chez les Philippiens. Hein? Autrement dit, si nous partageons tous les mêmes certitudes, la certitude d'être pécheur, la certitude de la souveraineté de Dieu et la certitude qui nous accueille devant lui, ce sont des certitudes, hein? nous n'avons plus besoin d'exiger les autres ce que nous-mêmes ne pouvons pas vivre pleinement. Je suis tellement conscient dans mon « wow » que je suis pécheur. Pourquoi exiger de l'autre une perfection ou un état de presque non-péché que moi-même, je n'ai pas? C'est à la limite de l'irrationalité dans le sens de ne pas comprendre ce que la Bible en dit. Hein? Donc moi, je sais que je suis un pécheur fragile, limité, et pourtant Dieu m'accueille tel que je suis. Alors pourquoi attendre des autres qu'ils soient parfaits? Et trop souvent, nos attentes envers les autres sont irréalistes. Hein? Et c'est pour cela que Paul se réjouit des Philippiens. Avant de pointer du doigt, avant de leur dire qu'il faut changer telle et telle chose. Voilà la raison de la joie de Paul pour les Philippiens. Il les félicite, non parce qu'ils sont sans défaut, mais parce qu'ils restent centrés sur l'essentiel, reconnaître leur péché, la souveraineté de Dieu et ce que Dieu accomplit pour eux. Quand on vit cela, ce trois « wow », la communion fraternelle devient plus simple, plus naturelle. Nos relations deviennent plus souples. C'est le monde qui presse. C'est le monde qui opprime. À l'Église, on est libéré. Hein? Et voilà pourquoi la joie chrétienne dépasse nos circonstances. Elle ne dépend ni de ceux qui font les autres. Si notre joie dépendait des autres, on serait mal barré. Hein? Et ni de ceux que nous possédons. D'autant plus que Paul était en prison, il se réjouit. Donc, notre joie ne peut pas dépendre ni des autres, ni de nos circonstances. Elle ne dépend que de Dieu et notre relation avec lui. Hein? La joie dans l'évangile, la joie de la communion fraternelle jaillit du message de l'évangile lui-même. Si notre joie reposait seulement sur l'être humain, elle ne tiendrait pas. Mais Dieu est à l'origine de l'évangile et c'est en lui que se trouve la vraie joie. Le lien entre Paul et les Philippiens ne reposait pas sur des affinités personnelles, ni sur la proximité géographique. Nous ne pouvons pas avoir le même degré d'affinité les uns avec les autres. C'est impossible. La joie de la communion fraternelle ne peut pas reposer sur la base de nos affinités personnelles. Forcément, nous allons avoir plus d'affinités avec quelqu'un que quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça qui fait la joie de la communion fraternelle. D'ailleurs, Paul et les Philippiens ne se rencontraient pas souvent. Il ne prenait pas le 268 pour les rencontrer. Hein. Il ne prenait pas la ligne D pour aller les voir. Non. Hein. Même si la ligne D parfois nous encourage vraiment à faire preuve de patience. En plus, si leur communion dépendait seulement... Voilà, vous voyez que je commence vraiment à m'habituer à la région. Hein. Non, cœur parisien. Hein? Si leur communion dépendait seulement de ces facteurs, Paul n'aurait jamais eu raison de se réjouir. Et c'est justement pour cela qu'il se réjouit. Cette communion dépend de Dieu. Pas de Paul, ni des Philippiens. Et en réalité, plus nous comprenons l'évangile, plus cette joie se manifeste naturellement parmi nous. Regardons la situation de Paul, complètement difficile. Les Philippiens, eux, pouvaient être orgueilleux. La recherche de la reconnaissance, ça pouvait même encombrer leur relation. À première vue, plus de raison de se réjouir. Et pourtant, en restant ancrés dans l'évangile et ce qu'il signifie pour nous, nous trouvons la véritable raison de joie, une joie qui dépasse nos circonstances, nos péchés, nos défauts. Comprendre l'évangile rend notre joie naturelle. Si Dieu a commencé une œuvre en nous, certainement il la mènera à son terme. Et si cela est certain, alors notre communion fraternelle peut grandir facilement dans le respect, la fluidité, la légèreté, apportant la joie au milieu de nous. La joie chrétienne ne dépend ni de ceux qui nous entourent, ni de ceux que les autres font pour nous. Nous ne pouvons pas dépendre de ça. Elle prend sa source dans notre compréhension du message de l'Évangile. Hein? L'Évangile qui vient des dieux dépasse nos limites. C'est pourquoi Paul et les Philippiens ont pu connaître cette joie profonde, même au cœur des épreuves du côté de Paul et même au cœur de difficultés du péché du côté de Philippiens. Ok? Et aujourd'hui, cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Progresser dans la compréhension de l'Évangile est une source de joie pour nous. Et ça devient naturellement, c'est pas forcé, et ça devient naturellement une source de joie pour nos frères et sœurs. Peu importe les épreuves, nos faiblesses, nos péchés, nos luttes, si nous restons attachés à ce message, nous aurons toujours une raison de nous réjouir, malgré toutes les circonstances et les défauts, les péchés de nos frères et sœurs. Parce que de toute façon, nous n'avons pas tant que ça. Nos frères et sœurs, oui, ils sont pécheurs, mais nous, on est plus saints qu'eux. Hein? Troisième élément pour vraiment expérimenter la joie de la communion fraternelle, il s'agit de la confiance dans l'œuvre du Christ. Nous voyons donc que notre foi en Christ ne nous pousse pas à ignorer les difficultés que nous rencontrons. Il ne s'agit pas de nier les difficultés. Hein? Il ne s'agit pas, l'évangile, ce n'est pas une fuite du monde ou une fuite de nos difficultés. Hein? En fait, ce qui change, ce que nous refusons de laisser ces circonstances, nos péchés, nos faiblesses, prendre le dessus sur notre relation avec Christ et sur notre vie fraternelle. Comme Paul le souligne, nous apprenons à placer notre confiance dans l'œuvre du Christ et pas dans les circonstances, pas sur ce que nous attendons des autres, c'est sur l'œuvre du Christ. Hein? Dans ce qu'il a déjà commencé en nous. L'évangile nous rappelle en effet que nous ne pouvons pas, par nos seules forces, changer toutes les situations autour de nous. Nous ne sommes pas capables. Ça nous épuise. Paul nous montre sa propre confiance. Dieu va accomplir en nous cette bonne œuvre et il va nous conduire à la maturité spirituelle. Une église qui grandit dans l'amour. Hein? Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne dans sa gloire. C'est ça notre but, jusqu'au jour du Christ. Hein? Cela signifie que l'œuvre de Dieu en chacun de nous n'est pas encore terminée. Ah, mais je suis tellement pécheur et limité. Mais attendez, Dieu n'a pas fini avec nous. Nous sommes en train d'être changés par Dieu, par son œuvre en nous et nos frères et sœurs aussi. Hein? Ce n'est pas notre responsabilité ni d'échanger les circonstances, ni d'échanger nos frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre du Christ. Et nous ne sommes pas Christ. C'est pour cela que notre communion fraternelle peut rester pleine de joie, même au milieu de nos imperfections. Nous ne sommes pas là pour changer les autres. Ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est même pas notre mission. Notre mission est de grandir dans l'amour. C'est la vision de l'Église. Ce n'est pas changer les autres. Ah, j'aimerais qu'ils soient comme moi. Mais non. D'ailleurs, la diversité fait partie du corps du Christ. Hein? Paul dit lui-même, c'est Christ qui rendra son œuvre parfaite en vous. Ce n'est pas à moi le faire, ni à personne d'autre. Mais figurez-vous, ce n'est même pas le pasteur qui va changer. L'Église, c'est l'œuvre du Christ. Je suis désolé de vous dire ça, mais non, c'est Christ. Du coup, ce texte met en avant l'espérance chrétienne et la perspective de la future venue de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu en nous a pour but ultime notre perfection et notre maturité spirituelle que nous atteindrons au jour du Christ. Pas ici. Le jour du Christ n'est pas encore arrivé. Hein? C'est lui qui accomplit tout. Et notre rôle est de nous réjouir ensemble. Eh bien, voilà notre rôle. Nous réjouir ensemble. Hein? Paul nous montre sa confiance dans la fidélité de Dieu pour mener à bien cette œuvre en nous en soulignant la souveraineté et la puissance de Dieu plutôt que de se fier à nos propres forces. Non, je suis Paul, je suis un apôtre super et tout. Non, ce n'est pas ça. L'évangile nous rappelle aussi une vérité essentielle. Nous sommes tous des pécheurs et accepter cette réalité nous permet de vivre plus sereinement, avec plus de stabilité, de détente et même de satisfaction. Pourquoi ? Parce que nous reconnaissons notre vrai état de pécheur devant la sainteté de Dieu et nous pouvons toujours, Seigneur, aie miséricorde de moi, je suis un pécheur. Et Jésus dit dans les évangiles que c'est ce genre de prière que Dieu entend. Ce n'est pas l'autre. Ah, merci Seigneur parce que je suis pasteur de l'église Villers-Lobel. Merci parce que je prêche tous les dimanches. Merci parce que... Non. Ce n'est pas ça que Dieu entend. Parfois, nous nous sentons frustrés. Pourquoi? Parce que nous attendons trop des autres. Ah, j'aurais aimé qu'elle. Hein? Et à force d'attendre un changement ou d'être dessus, parce que l'autre ne répond pas à nos attentes, la joie de notre communion fraternelle disparaît. Et pire encore, nous oublions parfois l'espérance ultime du chrétien, le retour glorieux de Jésus. Nous risquons de concentrer notre énergie sur quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Et la Bible appelle ça illusion. Une illusion ne reste pas. Mais l'amour de Dieu, la joie que Dieu nous donne, ce sont des choses éternelles. Et puisqu'elles sont des choses éternelles, ça reste et c'est la vérité. Alors, pourquoi nous nous infligeons, nous, cette souffrance. L'espérance du retour du Christ et l'accomplissement de ce qu'il a commencé en nous donne déjà un nouveau sens à notre vie dès aujourd'hui. Nous sommes libres de ne pas chercher la perfection, car Christ, c'est Christ qui la réalise en nous, pas nous-mêmes. Si nous vivons tous dans cette vérité, et pourquoi c'est une vérité? Parce que ça reste, c'est éternel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas passager. Hein? Nous pouvons nous rapprocher les uns des autres dans notre communauté dans la joie. Nous développerons un sentiment d'appartenance qui dépasse nos affinités personnelles, car ce qui nous unit réellement, c'est Christ. C'est ainsi que nous persévérons ensemble et que nous nous soutenons mutuellement. Sur quoi reposent réellement nos convictions et notre foi? Quand nous ressentons de la frustration dans notre communauté, est-ce parce que nous attendions quelque chose des autres? Ou est-ce que nous doutons que Christ ait accompli ce qu'il a promis? En d'autres termes, ma foi est-elle centrée sur ce que j'espère recevoir des autres, comme les Philippiens, ou sur ce que Jésus a déjà fait et continuera de le faire pour nous? L'espérance chrétienne transforme notre regard sur la vie dès aujourd'hui. En sachant que notre destin ultime est assuré auprès de Dieu, nous trouvons encouragement, réconfort, motivation pour continuer notre marche de foi. Et la foi, ce n'est pas seulement croire. Ah, j'ai la foi en Dieu. C'est-à-dire, je crois que Dieu existe. Non, ça c'est une croyance. Avoir la foi, c'est rester ferme peu importe les circonstances. La foi, dans la Bible, en fait, ce n'est pas un terme spirituel. Hein? À la base, c'était un terme militaire qui voulait dire rester ferme. C'est-à-dire que tout va bien, je reste attaché au Seigneur. Parce que les bonnes choses peuvent aussi nous éloigner de lui. Si tout va mal, je reste attaché au Seigneur. Parce que si tout va bien, en quoi ai-je besoin de Dieu? Je m'en vais. Si tout va mal, ça peut aussi nous éloigner du Seigneur. Bon, si tout va mal, le Seigneur m'a abandonné. Je l'abandonne aussi. Donc, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, nous sommes toujours dans le danger de nous éloigner du Seigneur. Et avoir la foi, c'est rester ferme, peu importe les circonstances. C'est comme la garde du palais de Buckingham. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres. Et les gardes du roi, ils sont là. On s'approche d'eux, ils restent là. Il pleut, ils restent là. Il fait un soleil épouvantable, ils restent là. Et pour moi, ça c'est une image, hein, de la foi. Ils ne se laissent pas ébranler par les circonstances. Ils restent dans leur poste. Et c'est ça la foi en fait. Et c'est ça vivre dans la confiance en Dieu. Hein? Ce n'est pas, ah mais j'espère que Dieu va me livrer de ça. Dieu n'a pas livré Paul de la prison. Dieu n'a pas livré Paul de la mort. Une fois, oui, mais l'autre fois, non. Et pourtant, Paul est resté ferme. Hein? Et ça, cette foi-là, cette fermeté dans la promesse du Christ qui va tout accomplir en nous, nous aide à affronter les difficultés avec courage et de nous investir dans ce qui a une valeur éternelle. Ce qui a une valeur éternelle, la Bible appelle quoi? Vérité. Hein? Au-delà de nos épreuves, de nos limites personnelles ou même de nos attentes envers les autres. Ainsi, l'Église, dans notre société d'aujourd'hui, dans une société qui nous presse, qui nous opprime, où tous cherchent son propre bonheur, son propre bien et s'en fichent des autres, l'Église est l'endroit par excellence dans la société où nous devons être en sécurité. Quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment. Quand je dis Église, je parle de la joie que nous trouvons dans notre communion fraternelle. L'Église est l'endroit par excellence dans la société aujourd'hui où nous devons être en sécurité, à l'abri de la peur des autres, à l'abri du jugement des autres. Si nous ressentons cela à l'Église, parlons-en. N'ayons pas peur. Donc, tenons-nous tous, tenons à ce que l'Église soit un lieu de paix et de sécurité et de joie dans les mêmes termes dont Paul parle aux Philippiens. Étant donné que l'Église est un endroit de sécurité, de paix et de joie, c'est quoi la paix? Vous allez beaucoup m'entendre à répéter toutes ces conceptions, ok? Oui, je commence à devenir un vieux pasteur qui commence à répéter beaucoup de choses. Et ce sont des choses que je répète beaucoup. C'est quoi la paix? C'est l'absence complète de problème? Non. La paix dans la Bible vient d'un terme en hébreu que ça veut dire une harmonie. Un ensemble en harmonie. Pas un ensemble parfait. Paul dit que nous avons la paix avec Dieu. Or, Dieu est saint, souverain, éternel. Et nous, mortels, pécheurs, limités. Est-ce que c'est une relation parfaite? Bien sûr que non. Ça ne peut pas être parfait. Mais Paul dit que nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que en Christ, nous, avec Dieu, nous formons tous un ensemble, en harmonie. Et c'est ça dans l'Église. C'est un ensemble parfait? Non. Mais nous vivons en harmonie. Et dans une harmonie, il y a des différences. Hein? Ainsi, étant donné que l'Église est un endroit de sécurité, de joie et de paix, pourquoi nous nous engageons à l'Église? Pour remplir une place vide? Parce qu'il faut? Parce que quelqu'un doit le faire? Non. Ce sont des mauvaises raisons, ça. Hein? Parce que le but de notre vie est de glorifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, glorifier le nom de Dieu? Montrer que Dieu est toujours présent dans ce monde. Dans un monde chaotique, nous glorifions le nom de Dieu. Nous montrons qu'il est présent par notre harmonie. Alors que le monde cherche la division dans les différences, nous cherchons l'union dans les différences. Et lorsque le monde voit que nous recherchons à tout prix l'harmonie et la paix, un ensemble harmonieux malgré les différences, nous glorifions le nom du Christ. Pourquoi? Parce que nous montrons que Christ est là. Et le monde voit ça, mais attends, nous sommes divisés entre Marseille et Paris Saint-Germain. Nous sommes divisés par la droite et la gauche. Nous sommes divisés par la 6e République ou la 5e. Non, là nous sommes tous unis presque. Est-ce que nous sommes divisés par telle chose ou telle chose? Et l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? Venez tous. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez tous à moi. Mais voilà, pour former cet ensemble harmonieux. Et l'Église glorifie, c'est-à-dire l'Église montre le nom de Dieu dans cette société. Et ici, nous pouvons vivre avec nos différences. Parce que la joie de la communion fraternelle, cette joie dont Paul parle, hein, dans ce modèle-là, nous n'avons pas à avoir peur de ceux qui pensent différent. Nous n'avons pas à avoir peur de partager nos pensées, nos sentiments, notre façon de voir les choses. Nous n'avons pas à avoir peur d'être jugé par les autres. Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser si je dis telle et telle chose? Mais non. Ça, c'est possible. Hein? Et c'est comme ça que l'Église glorifie le nom de Christ. Ce n'est pas en distribuant des tracts comme ça. L'autre jour, cette semaine, je trouvais ça extraordinaire. C'était mardi ou mercredi, le cours. Où le monsieur il a vu la porte ouverte, il viu la porte aberta aqui na igreja. Notre voisin, il a vu la porte de notre église ouverte. Hein? Paula Beth, ils étaient là pour le cours de français. Et un voisin, ah mais ça c'est ceux de la ville, ceux de l'église, c'est de l'église. Et là, ils ont pu partager un peu de ce que l'église fait. Quelle a été la réaction de notre voisin? Ah, mais c'est très bien. Mais voilà. Vous voyez, dans une société qui repousse le différent, l'Église accueille. Et le nom de Christ a été glorifié cette semaine. Pour vous, que l'Esprit Saint touche le cœur de ce voisin. Hein? Donc, n'ayons pas peur non plus d'assumer des responsabilités dans l'Église. Ah, mais j'ai peur de ce qu'on va dire. Mais non, on vient de dire que l'Église n'est pas la place pour avoir peur. Ah, si je me trompe, si jamais je me trompe, à l'Église, pas peur de se tromper. Pourquoi? Parce qu'on est censé tous ne pas juger nos frères et sœurs. Voyez? Si on est censé ne pas juger les frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur d'être jugé lorsque nous assumons des responsabilités dans l'Église pour glorifier le nom du Seigneur, pour bénir nos frères et sœurs. Et comme ça, nous pouvons tous assumer des responsabilités dans un esprit léger, dans un esprit souple. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à l'Église, nos frères et sœurs auront un regard bienveillant sur nous. Ah, mais je ne sais pas. Ce n'est pas à nous, comme Paul vient de nous montrer, de changer nos frères et sœurs. Ça appartient à Christ. C'est pour ça que nous pouvons assumer certaines responsabilités dans la joie, dans la souplesse, dans la légèreté, dans notre communauté. Hein? À la recherche des grandis dans l'amour, hein, nous pouvons, et ça fait partie des grandis dans l'amour, lorsque nous proposons toujours des améliorations, des solutions, des projets, et non pour pointer les problèmes ou chercher des coupables. Nous sommes orientés à la solution et pas orientés au problème. Ah, mais c'est qui a fait ça? Peu importe. Comment est-ce que nous allons ensemble glorifier le nom du Seigneur pour combler ce besoin-là? Au lieu de, ah, mais personne ne se lève. Et tout. Non, nous sommes orientés aux solutions et nous ne sommes pas orientés aux problèmes. Dans la légèreté, dans la souplesse et dans la joie. Et c'est pour ça, ça fait plus partie de la prédication, ok? J'ai profité de la prédication pour donner un encouragement à l'Église, hein? Justement parce que nous attendons des personnes pour servir. Et nous servons pourquoi? Pour combler un espace vide, parce qu'il faut, non? Nous servons à l'Église pour glorifier le nom de Christ, pour bénir nos frères et sœurs, pour chercher le bien des autres, au-delà de notre propre bien. Et c'est pour ça que nous servons dans l'Église. Et nous servons dans la joie, dans la souplesse. Donc, notre Église a besoin d'autres personnes, par exemple, pour présider les cultes. Le culte, c'est l'une des activités les plus importantes, c'est la vie même de l'Église, parce que c'est dans le culte que nous louons, que nous glorifions tous le nom du Seigneur. Et nous avons besoin des personnes pour faire ce qu'on a fait ce matin. Et nous avons besoin de quoi? De diversité. Hein? Je dis au conseil l'autre jour, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Mais ça serait ennuyeux quand même. Voir toujours pasteur Alexandre, hein? Vous allez voir, je suis un peu carré, c'est presque la même chose et tout. Mais nous avons besoin de la diversité, de la joie d'autres personnes. Je ne suis pas très joyeux comme Anna, par exemple, comme d'autres personnes ici. Voyez? Et la diversité, ça doit faire partie de l'Église. Du coup, j'attends tous ceux qui voudront servir le Seigneur dans le culte, juste après la fin de ce culte. Le seul but de cette réunion, le seul, c'est de former l'équipe. Nous avons besoin d'étoffer l'équipe de la présidence de culte. Hein? Du coup, le seul but, ça ne va pas durer longuement. Ça ne sera pas une réunion très longue. Hein? Ça sera vraiment courte. Le seul but est de former l'équipe. Okay? Combien nous sommes, qui nous sommes. Okay? On va former l'équipe et puis après, on en discutera comment nous intégrer avec le groupe de louanges pour donner plus de fluidité. Former une équipe bien rodée. Et comme ça, nous en profiterons tous. Le nom du Seigneur sera glorifié et nous serons là tous dans la joie. Donc voilà, je vous promets, ça ne sera pas long. Ok, c'était là mon annonce suivi et mon encouragement suivi de cette prédication. J'aimerais prier avec vous et puis après on chantera les annonces et c'est la fin du culte. Pardon, c'était un peu long, mais j'ai senti du Seigneur que je devrais encourager notre Église dans ce sens-là. Ok? Ça ne sera pas tous les dimanches comme ça, je vous promets. Et oui, Seigneur, reçois notre reconnaissance, notre gratitude pour ce que tu as déjà accompli en nous, en Christ. Merci, Seigneur, parce que la joie que tu nous donnes, elle ne dépend ni de nos circonstances, ni de nous-mêmes, mais elle ne dépend que de toi, de ce que tu as accompli en nous, ce que tu vas encore accomplir en chacun de nous. Seigneur, nous te prions pour notre Église, cette communauté que tu as placée ici à Villers-le-Bel. Nous te prions, Seigneur, d'accomplir ton œuvre dans cette Église pour que le quartier ici, la ville, Seigneur, puisse voir, Seigneur, ton œuvre ici au milieu de nous. Et Seigneur, c'est toi-même qui le dis, que la société voit vos bonnes œuvres et qu'elle glorifie notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen.